Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa en partenariat avec ICN Business School, aujourd'hui avec Alexandre Melnik, donc professeur de géopolitique à ICN Business School, auteur, conférencier, ancien diplomate russe et soviétique. Nous allons bien sûr aborder la question brûlante de l'Ukraine et du conflit qui anime aujourd'hui cette région et ce pays en particulier, au travers justement de la question des parties prenantes de ce conflit, naturellement l'Ukraine, naturellement la Russie, mais il y a également l'Occident, il y a également notamment la Chine, peut-être aussi d'autres pays qui ont leur mot à dire sur cette scène-ci. Et la question est donc simple, Alexandre, eh bien, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que ces pays peuvent faire et vont faire dans le cadre de ce conflit?
Non, mais d'abord, que va-t-il se passer? Personne n'en sait rien. Donc ça, c'est sûr et certain que nous vivons aujourd'hui dans un monde où la seule certitude, c'est l'absence de toute certitude. Donc, et nous vivons effectivement dans un monde où la civilisation occidentale n'a plus ce que j'appelle le monopole de l'histoire, c'est-à-dire l'exclusivité du pouvoir, et ce, pour la première fois depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis le 15e siècle. Nous avons aujourd'hui un monde apolaire ou multipolaire, où il y a les nouveaux pôles d'excellence, y compris la Chine évidemment, mais il y en a d'autres qui montent au détriment de cette puissance occidentale qui existait auparavant pendant, je répète, 5 siècles. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce que d'un côté, il s'agit d'une sorte de folie meurtrière d'un homme qui est jusqu'au boutiste et qui n'a pas de limite. Donc c'est une des raisons qui explique son comportement, parce qu'il n'a pas de pare-feu, de contre-pouvoir, de barrière. Donc étant russe, donc jusqu'au boutiste, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'aller justement jusqu'au bout de son projet. Et son projet, c'est une guerre civilisationnelle contre les libertés, la démocratie, l'état de droit, bien au-delà d'un seul pays qui s'appelle l'Ukraine. Bon, donc après, il faut faire quand même quelque chose. Tant qu'on est vivant, il ne faut jamais être dans le fatalisme. Et moi, dès le début de cette tragédie, j'étais persuadé que la seule riposte valable par rapport à cette agression de Poutine pourrait être la solidarité transatlantique sans faille. C'est-à-dire, nous devons comprendre que nous sommes attaqués au cœur de la civilisation occidentale, et la civilisation occidentale, il ne s'agit pas seulement de l'Europe, mais il s'agit aussi, et peut-être d'une certaine façon surtout, des États-Unis. Donc il faut surmonter un sentiment extrêmement prégnant dans la mentalité, dans la politique française, l'anti-américanisme, presque comme réflexe pavlovien. Donc quand on parle des États-Unis, c'est forcément mauvais. Et se rappeler que les États-Unis, au départ de son parcours historique, c'était un bébé civilisationnel de l'Europe, c'était un bébé civilisationnel des Lumières, c'était en quelque sorte bébé civilisationnel de la France. Je vous rappelle que quand vous allez aux États-Unis devant la Maison Blanche, vous voyez deux statues de Français, Rochambeau et Lafayette, et parmi les pères fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson et Thomas Paine, je ne cite que, c'était des personnages, des personnalités qui étaient fortement inspirées par la civilisation occidentale. Donc il faut surmonter l'anti-américanisme et savoir que seulement cette solidarité transatlantique peut faire barrière, feu barrer la route à Poutine. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Europe, malgré tous les avantages qui sont évidents pour nous tous, notre mode de vie, notre certaine prospérité, d'ailleurs quand même un peu déclinante ces derniers temps dans ce monde global et multipolaire, eh bien l'Europe, c'est un peu un herbivore face au carnivore, parce qu'en fait nous avons oublié l'existence du tragique dans l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons construit une Europe postmoderne qui était basée sur la prospérité économique, sur les valeurs humanistes, mais qui n'avait aucun hard power, c'est-à-dire aucune armée. L'Europe n'a pas d'armée. Et donc, qui a assuré la protection de l'Europe pendant, par exemple, les 30 Glorieuses qui ont assuré la prospérité de l'Europe, les Américains, et qui assurait concrètement, c'est le temps. Donc, c'est-à-dire, il faut se rappeler quand même des fondamentaux des choses et revenir à la définition de base. Mais qu'est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il s'agit d'un bloc agressif qui veut pousser son avantage vers d'autres territoires, ou il s'agit tout simplement du bras militaire, du bras armé des démocraties face à l'hostilité, face à l'adversité? Ben évidemment, moi je penche pour la seconde hypothèse. Donc c'est grâce à l'OTAN qu'on n'a pas eu de guerre à la fin du XXe siècle. Donc la guerre était froide, mais la guerre n'a jamais été chaude, alors que là on est face à cette guerre chaude. Donc c'est-à-dire la solidarité transatlantique, et là on constate qu'il y a déjà des fissures, parce que si Poutine a réussi à ressouder l'OTAN, ressouder l'Europe et poser des bases de cette renaissance occidentale face à son agression, c'est-à-dire d'une certaine façon nous nous opposons par rapport au danger. Mais il ne faut jamais oublier que c'est comme ça que l'Europe était créée, face à une crise. Eh bien, nous n'avons pas d'armée, nous ne sommes pas prêts d'ailleurs de l'avoir dans les années à venir, parce que déjà la situation économique n'est pas extrêmement prospère, et si vous demandez aux contribuables français, regardez le mouvement des Gilets jaunes, etc., de faire un effort supplémentaire pour financer une armée européenne, vous pouvez imaginer la réponse qui serait d'ailleurs une sorte de suicide pour les politiques qui préconisent la création de l'armée, même si je rends hommage évidemment à notre président Emmanuel Macron, qui était toujours d'une certaine façon précurseur de cette protection souveraineté européenne aujourd'hui, qui est absolument indispensable. Mais on est loin de la réalité d'aujourd'hui. Donc il faut garder cette unité transnationale. Par exemple, la question de l'embargo sur les exportations d'hydrocarbures russes. Comment ça se fait que les Américains avaient déjà déclaré l'embargo, la Grande-Bretagne a déjà soutenu, alors que l'Europe aujourd'hui se divise dans sa position donc par rapport à ça? Évidemment, vous pouvez me dire que les Américains ne dépendent pas aussi fortement des hydrocarbures russes, etc. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit plus du pouvoir d'achat aujourd'hui. Il s'agit du sens que nous donnons à nos vies. Parce que si nous ne faisons pas cet effort, et même un sacrifice, nous serons face au danger qui sera commun pour nous tous. Donc il n'y aura plus d'ailleurs d'économie prospère, mais nous aurons aussi la guerre qui pourrait être la dernière guerre pour nous tous. Ça, il faut vraiment hiérarchiser les priorités aujourd'hui. Le moment est urgent. Le moment est vraiment vital, crucial pour nous tous. Et donc, dernier aspect peut-être, mais la Chine. Tous les yeux se tournent vers la Chine. Peut-être le salut pourrait venir de la Chine. Je voudrais rappeler quand même que la Chine est très écoutée par Poutine, qui n'écoute pratiquement personne. En tout cas, il n'écoute pas les leaders européens, ça c'est sûr et certain. Mais il a quand même écouté Xi Jinping, donc le président chinois, qui lui a dit, ou peut-être il lui aurait dit, je vais être prudent, écoute, pendant les Jeux Olympiques, tu attends un peu, et après les Jeux Olympiques, tu fais quand même de façon assez raisonnable, parce que la Chine s'est abstenue, par exemple, dans le vote de l'Organisation des Nations Unies qui condamnait l'agression russe en Ukraine. Donc la Chine aujourd'hui, c'est une puissance économique extraordinaire. Je voudrais rappeler que le PIB chinois aujourd'hui est 12-13 fois supérieur à celui de la Russie. C'est-à-dire la Chine et la Russie ne jouent pas du tout, ne boxent pas du tout dans la même catégorie. Est-ce que la Russie veut devenir un supplétif de la Chine, finalement, donc dans l'après-guerre? Quelle est la position de la Chine? La Chine attend. La Chine attend aujourd'hui, c'est l'attentisme chinois qui est propre d'ailleurs à la position chinoise. Elle cherche son intérêt, parce que les Chinois ne s'engagent pas aujourd'hui de façon active et proactive sur les problématiques géopolitiques, parce que la seule chose, le fil conducteur de la Chine aujourd'hui, c'est le pragmatisme économique. Quel pourrait être l'intérêt économique de la Chine ? Et évidemment, si la guerre aujourd'hui donc se propage à travers le continent européen, ce sera complètement contre-productif pour la Chine. Donc, je n'exclus pas que dans les jours à venir, la Chine pourrait jouer un rôle extrêmement important dans une sorte de recherche de solution à ce conflit. Et la solution à ce conflit ne pourrait pas être militaire. La solution de ce conflit ne pourrait être que politique ou géopolitique. Donc voilà les ingrédients de cette situation, sachant que la force de l'argument ne fonctionne plus face à Poutine. Et qu'est-ce qui reste ? C'est l'argument de la force. Donc l'argument de la force, il faut être fort, il faut être uni, il faut être solidaire en ce qui concerne la société, la civilisation occidentale, sans oublier que nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous, les Occidentaux, nous n'avons plus l'exclusivité du pouvoir global.
Merci beaucoup Alexandre Melnik pour votre éclairage très précieux. Comme toujours, je le rappelle, professeur de géopolitique, ICN Business School, auteur, conférencier, ancien diplomate russe et soviétique. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et donc à très bientôt pour un nouvel épisode sur Major Prépa.